en même temps qu'il décolle, là.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jeudi 28 mars et on a Sonia là avec nous. Bonsoir Sonia.
Allô, allô.
Et puis la co-animatrice Lolita, qui est là aussi, Lolita Leblanc, qui vient de sortir son livre Kali. Donc on a trois sorties. On a Lolita, on a Sonia avec Cléopâtre. Puis personnellement, je l'ai reçu et il sort la semaine prochaine. Délire d'amour qui est sorti. Et trois à Béliveau éditeur.
Trois Béliveau en même temps.
Les trois pour Béliveau. Un merci particulier à Annabelle qui a animé la dernière fois le Béliveau rencontre. Et
avec c'était Annabelle ouais.
Qui était là parce que moi, je n'étais pas là. Merci beaucoup à Annabelle. Puis, on est diffusé en direct. Sur Twitch, on a du LinkedIn, YouTube, on a les pages Facebook et en même temps, dès demain, ça va se retrouver sur Balado Québec, Audible, Hayat Radio qui ont Belle, qui ont Rouge et Énergie. On a aussi Apple Podcasts, Google Podcasts, puis il y en a d'autres, Spotify, où ce qu'on est aussi.
Il y en a une douzaine.
Il y en a une douzaine, puis aussi sur Unicité, la radio de Sly Chappell qui va diffuser l'entrevue. Donc, on a les questions qui arrivent déjà. Il y a Maryse Fortin qui est déjà là avec nous. Puis, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, la sortie, je vais vous montrer la couverture parce qu'elle est vraiment sublime.
Oui.
Solita, on t'éclipse.
Bon, salut, je vais revenir tantôt.
Sonia Alain, le destin de Cléopâtre, un amour envoûtant au cœur de l'Égypte ancienne. La couverture en premier est magnifique. Sonia, qu'est-ce que tu penses de la couverture? Parce qu'elle est magnifique.
Écoute, elle est, je peux juste dire, oh, wow! elle est vraiment sublime. Quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour cette page couverture-là. Elle est vraiment, je trouve qu'elle est racée, elle est riche en beauté, en simplicité, mais elle est classe, là, tu sais, fait que vraiment...
Accroche-l'œil, hein? Beaucoup, beaucoup, là, elle est accrochante.
Puis Cléopâtre, dessus, je trouve qu'elle est exactement comme le personnage de mon roman, tu sais, elle est vraiment... Écoutez, c'est juste... On m'aurait fait un scan du cerveau pour avoir la meilleure page couverture, puis ça aurait été ça. Là. C'était vraiment en plein dans le mille.
Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Sonia, Sonia Alain, qui va répondre à toutes vos questions. Il y a déjà des commentaires. Il y a Olivier Girard qui dit qu'il y a peut-être toute une grande reine. Il y a Marie Sortin qui dit super. Il y a Julie Lamar, Julie Lamar, elle est là, qui dit bonjour à vous trois. Il y a Lynn Robert qui est là puis qui dit bonjour à vous trois. Donc il y a déjà beaucoup beaucoup de monde. Sonia, c'est ton 21e livre. Déjà 21.
C'est
l'histoire,
pas
ouais, l'histoire de Cléopâtre est arrivée comment dans ta vie?
Ben en fait, c'est que moi, j'ai toujours été fascinée par cette reine-là. J'ai toujours le goût d'écrire un roman sur ce personnage-là. Puis, à l'époque, quand on m'avait demandé pour écrire sur un personnage qui m'intéressait, c'était Cléopâtre qui s'était imposée à moi parce que cette femme-là, elle est juste fascinante. elle avait une volonté, elle avait un charisme, elle était vraiment là, pour moi, elle incarnait beaucoup de choses.
Elle a une aura mystique aussi, hein? Beaucoup, beaucoup.
Une aura mystique, en effet. Puis, on en a souvent entendu parler, on a vu des films de Cléopâtre, tout ça, mais j'avais besoin, moi aussi, de lui rendre un hommage d'une certaine façon, de faire découvrir cette histoire-là, son histoire aussi à la nouvelle génération.
Avec tes couleurs.
Ce qui?
La faire découvrir avec tes couleurs.
Oui, exactement, avec mon intensité, avec ma façon d'écrire et tout. Puis, donc, c'est ça, c'est un choix qui m'imposait à moi. Et le choix s'imposait à moi aussi avec Julie Cézanne, alors que souvent, c'était le plus associé à Marc-Antoine. Mais pour moi, c'était l'histoire entre Julie Cézanne qui avait... Je vais reprendre tes termes, cette aura-là mystique, cette intensité-là, cette relation-là, pour moi, elle voulait tout dire. Donc, ça allait de soi que pour moi, c'est peut-être des personnages qui la surprise.
Dans ce moment, on lit.
As-tu beaucoup de recherches à faire là-dessus?
Oh. Oui, hein? Des recherches, tu dis? Écoute, je me suis tapé des. Tu sais, là, des livres historiques, là. Un geste, là, qui s'écrit petit, là. Donc, d'historien, tout ça. En fait, moi, j'ai digéré la matière. Puis, je l'ai écrit pour qu'elle soit romancée, pour qu'elle soit accessible à tout le monde après ça.
Mais l'angle que tu as pris dans ton roman, c'est que tu l'as mis à l'aube de ses 21 ans.
Oui,
c'est quand même un angle qu'on a peu vu, peu explorer dans les autres romans, parce que c'est vraiment qu'elle est forcée de fuir le palais avec un complot et tout ça. Je ne vais pas tout raconter, mais c'est tu as pris une partie de son histoire qu'on connaît un peu moins de Cléopâtre. Ouais. C'était voulu?
Oui, parce que c'est la base. Ouais. Je veux dire, c'est ce qui a fait d'elle la femme et la reine qu'elle a été. Donc, pour moi, ça allait de soi qu'il fallait commencer à quelque part au début, lorsque tout déboule, puis tout a découlé de sa rencontre par la suite que Jules César exige de la rencontrer. Tout découle de cet exil-là et de cette rencontre-là, toute son histoire, toute sa vie. Donc, pour moi, ça faisait du sens de commencer. Ben, en fait, ça ne pouvait pas commencer autrement.
Ben, il y a des questions, il y a Maryse qui dit mes livres de Sonia, je les lis au moins deux ou trois fois tellement qu'ils me prennent le cœur et bien évidemment, ils sont incroyables.
Merci Maryse.
Il y a d'autres, il y a déjà des questions. Il y a Julie Lamarre qui demande as-tu toujours écrit des romans historiques ou as-tu essayé d'autres styles?
Ma prédilection, c'est les romans historiques. Mais j'aime écrire une fois de temps en temps, sortir de ce cadre-là. J'ai déjà écrit une série fantastique, Les gardiens des portes. J'ai écrit aussi des romans contemporains, plus spicy.
Contes interdits.
J'ai écrit un trailer vraiment horreur qui est de Conte le petit chaperon rouge et Contes interdits. Donc, j'aime comme ça à l'occasion écrire d'autres choses, d'autres styles, parce que ça me permet de ventiler aussi, parce que veux pas, quand j'écris mes romans historiques, je fais tellement de recherches, c'est tellement intense, que ça fait du bien une fois de temps en temps de sortir du cadre. Puis pour ce qui est du fantastique, j'adore aussi le fantastique. Donc,
libre.
Ouais.
C'est une liberté que tu n'as pas avec l'historique, tu l'as moins en tout cas.
Oui, je l'ai moins, mais par contre, je me joue quand même des tours parce que c'est du fantastique comme la série, mais c'est quand même avec des légendes qui sont, tu sais, qui existent, des un peu partout à travers le monde, tout ça. Donc, j'ai des cadres quand même de recherche, mais j'ai un peu plus de liberté malgré tout, là, que comme Cléopâtre, exemple, que là, j'avais une ligne directive à suivre, je ne pouvais pas m'amuser à tout changer, c'est quand même un personnage qui a existé, donc c'était très contraignant au niveau de la ligne du temps. Là.
C'était ça qui était probablement plus difficile dans tout ton temps d'écriture, de te contraindre à certains éléments obligés et de rentrer dans le cadre.
Oui, puis ce qui était difficile aussi, c'est que même si je lisais des romans, pas des romans, mais des livres historiques, de l'information historique, Ben, les historiens ne s'entendent pas tous sur les mêmes choses.
Pas les mêmes versions, ouais.
C'est ça, fait que des fois, j'avais des versions différentes, puis là, j'avais comme pas le choix. Fait que j'y allais avec ce qui cliquait le plus.
Pour ton histoire.
Mon histoire, oui. Mm-hmm. La façon dont je voyais le personnage.
Quand on suit tes réseaux sociaux, ma chère Sonia, on voit que quand tu débutes un livre, on voit des piles de cartons. Tu fais des photos quelquefois de ton avancée de l'écriture. Puis c'est vraiment très méthodique, on dirait, de ta façon de travailler. Peux-tu un peu expliquer? Tu dis que tu fais beaucoup de recherches. Oui, il y a tout ce que tu dis sur le sujet que tu veux élaborer, mais aussi toute la partie de prendre des notes. C'est un plan littéraire, littéralement, que tu fais pour chaque livre.
Oui, ben en fait, tous mes livres, j'allais être en jaune. Toutes les informations que je trouve pertinentes. Et après ça, je regroupe tout ça sur des petites fiches comme ça. Des anciennes petites fiches de recettes que nos parents utilisaient. Et je fais des fiches vraiment selon des catégories, selon l'alimentation, les vêtements, les coutumes, les croyances, etc. Puis là, je peux avoir 10, 12 cartons d'un même sujet que j'attache avec un trombone. Et là, je me fais toutes mes fiches comme ça. Et pendant que je fais mes recherches, pour moi, ça me nourrit beaucoup parce qu'au même moment, je me prends des notes sur une feuille à côté et là, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées qui sortent, qui apparaissent au fur et à mesure que je fais mes recherches. Et par la suite, quand j'écris mon roman, ben là, lorsque je choisis les recherches dans mes fiches, ben là aussi, je les highlight en jaune pour dire « OK, cette information-là, je l'ai prise. Je ne veux pas la répéter ailleurs, puis tout ça. » Donc, c'est très méthodique, mais pour moi qui suis très visuelle, c'est très utile pour moi. En fait, c'est essentiel. Sinon, je m'y perdrais, là.
Ça devient des cartes routières, finalement, ce que tu fais, là.
Exact, oui.
Ça t'allume de temps, puis c'est des cartes routières.
Oui, puis ça me sert. Je veux dire, quand j'ai fait, exemple, mes recherches sur l'Empress of Ireland, dans une de mes premières séries, ben, lorsque j'ai écrit un autre roman, puis j'abordais aussi un petit peu l'Empress of Ireland, ben, je suis allée chercher mes cartons. Là, je n'avais pas besoin de faire la recherche. J'étais allée chercher mes cartons, j'étais allée utiliser ce que je n'avais pas utilisé encore. Parce que, oui, quand je fais mes recherches, c'est très fastidieux, dans ce sens que j'en fais énormément. En fait, j'en fais plus que pas assez. Parce que quand je suis partie en écriture, je pars en écriture et je déteste devoir m'arrêter en écriture pour aller chercher des informations. Fait que j'aime mieux en avoir plus que pas assez.
Mais pour Cléopâtre, il y a tellement d'informations, des films, des livres, des balados, des articles. Comment qu'on fait un tri par rapport à ce que tu souhaites développer dans l'histoire? Parce qu'il doit y avoir à peu près, c'est quoi? 100 000 choses qui doivent apparaître sur Cléopâtre, les livres, les films, encore une fois, les balados qui traitent de ce sujet-là. Comment tu arrives à choisir ce que tu as besoin?
Ben, en fait, quand j'ai des informations contradictoires, comme je disais, je vais chercher avec ce qui me clique, ce qui m'intéresse. Mais c'est certain que avec mes fiches, c'est vraiment ce qui me permet de ne pas me perdre parce que oui, il y a énormément d'informations. Mais comme quand je faisais mes recherches sur Cléopâtre, je me concentrais sur sa période lorsqu'elle eut l'exil et sa période avec Jules César. Avec tout ce qui était après, avec Marc-Antoine, tout ça, j'ai tout laissé ça de côté. J'ai pas du tout regardé parce que sinon, je serais encore en train de faire des recherches. Mais et comme les documentaires à la télévision, tout ça, ben ça me donnait un visuel plus... de global, de tout ce qui était autour aussi, parce que c'est beau faire des recherches sur le personnage, mais on a besoin de tout ce qui est autour aussi.
Ben oui, l'environnement, oui. Les coutumes, tout ça, ben oui. Les croyances.
D'à quoi ça ressemblait, tout ça. Fait que, en fait, je peux vous dire que des fois, si on fait des. Si quelqu'un arrivait puis regardait c'est quoi mes moteurs de recherche, je poserais des questions des fois, qui s'irait dans mon ordinateur parce que j'ai de toutes sortes de choses que je cherche.
As-tu découvert des choses qui t'ont agréablement étonné, que tu ignorais complètement sur elles, puis tu te dis, waouh, ça, il faut que j'en parle, il y a tellement peu de gens qui sont au courant de ça. Ça, c'est venu te chercher, tu te dis, c'était une grosse découverte. Est-ce que ça t'est arrivé durant le processus?
Ben, en fait, je savais qu'il y avait eu quelque chose avec Jules César, mais je ne savais pas que ça avait été à ce point-là, la relation, au point d'avoir un enfant et tout. Tu sais, je connaissais pas cette profondeur-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup surprise. Donc, et ça m'a aussi beaucoup allumée dans le sens que je dis, oh yes, c'est vraiment comme ça. Ça m'a juste confirmé que c'était là que je m'en allais aussi. Mais ça, ce volet-là, parce que souvent, son volet amoureux, si on peut dire, est souvent plus concentré à Marc-Antoine, alors qu'il a vraiment eu quelque chose de très présent entre elle et Jules César, en fait, de beaucoup plus profond, je dirais même.
Oui, elle avait un enfant. Oui, c'est sûr.
Il y a Maryse Fortin qui demande, vas-tu écrire d'autres romans historiques?
C'est sûr. C'est sûr. Je suis en train d'en écrire un et j'en ai d'autres à venir. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup, écrire de la romance historique. Fait que tant que je vais être allumée là-dessus, je vais en écrire. Puis, comme c'est parti là, j'en ai pour un bout.
On voit la chouchou, c'est ça.
Il y a Olivier Girard qui dit, as-tu parlé avec Evelyne Ferron pour Cléopâtre?
Non, je n'avais pas parlé avec Evelyne à ce moment-là. En fait, je l'ai comme découvert un petit peu à la fin de l'écriture de mon roman. Là. Elle se spécialise à ce niveau-là plus. Fait que non, j'ai vraiment été dans des documentaires à télévision, dans des livres d'historiens, différents livres d'historiens. Là.
Il y a Julie Lamar qui demande, comprenant toutes tes recherches, combien de temps cela te prend pour écrire un roman?
En fait, je prends un mois complet intensif de recherche. C'est un mois que je concentre que là-dessus. Puis après ça, je m'accorde 5 mois pour l'écriture, la réécriture, parce que j'écris à la main, donc il faut que je retire
le
notaire. Donc, et pour voir avec mes bêta-lectrices leur retour de lecture, finaler mon roman et l'envoyer. Donc, ça, je prends 5 mois. Donc, 6 mois en tout.
Donc, tu écris à la main, tu recopies, retranscris le tout à l'ordi?
Oui, et j'ai essayé d'écrire directement à l'ordinateur et ça l'a foiré. Ça ne marchait pas. J'étais toujours en train d'arrêter pour aller chercher un mot sur Antidote ou quelque chose de même et j'avais pas la même fluidité. Tandis que là, dans mes cahiers, avec un cahier, mon crayon pousse-mine, je m'installe à quelque part, je pars et là, j'écris non-stop. Puis après ça, lorsque je remets le tout à l'ordinateur, par chance, j'ai mon doigté, ce qui m'aide. Mais je fais déjà un travail de retravail, tu sais, ça fait ouais. Un peu, mais je le retravaille déjà mon texte quand je le retranscris comme ça à l'ordinateur. Donc, j'ai déjà une première étape qui se fait à ce moment-là. C'est sûr, je vais le relire, je vais le retravailler, tout ça, mais déjà en le mettant à l'ordinateur, sur Word, je fais déjà un premier gros travail.
Comment tu le relis de fois, d'après toi, en général? Là? Fait un pourcentage, là, pour que ça y a ton goût, comment tu le relis de fois?
Écoute, je facilement une dizaine de fois.
Bon, je suis pas la seule à être cinglée. Tu sais, si tu me dis, et tu me confortes.
Moi, tu sais, je l'écris. Là, après ça, si, quand je reviens une autre journée après pour continuer, ben là, je relis ce que j'ai écrit dans les dernières pages. Je retravaille un petit peu en même temps. Quand je le tape, ben, je le relis. Puis après ça, quand il est tapé, je le relis une autre fois pour voir si je change des choses. J'imprime le tout. Puis là, je relis une autre fois parce que le voir à l'ordinateur et le voir imprimé sur des feuilles, on ne voit pas les mêmes choses. Je suis corrigée de l'antidote, j'envoie mes bêta-lectrices. Puis après ça, j'ai le retour, j'apporte les modifications. Puis à la fin, je relis tout non-stop parce que moi, je travaille 2 chapitres à la fois. Donc, je fais 2 chapitres, ils passent à la correction antidote, j'envoie ça à mes bêta-lectrices. Puis, à la fin, là, je relis de A à Z. J'ai aussi une bêta-lectrice qui relit, elle aussi, de A à Z. Puis, là, je l'envoie. Fait que moi, je le lis.
À combien de bêta-lectrices?
J'en ai 5.
Wow!
C'est toujours les mêmes?
Là-dessus qui me suivent depuis un petit bout de temps. J'aime aussi aussi beaucoup. J'en ai une de France aussi, ce qui me permet des fois ce qui me permet souvent de réaliser que, oups, il y a des mots qu'on utilise, mais qui ne sont pas la bonne signification ou qui sont, tu sais, parce que j'essaie d'écrire le plus international possible.
On appelle des Québécois.
Ouais. Je m'aide beaucoup là-dessus aussi, tu sais. Puis écoute, 99% du temps, quand elle me revient comme ça, je me rends compte qu'en effet, on ne l'utilise pas de la bonne façon. c'est utilisé au Québec, mais pas ailleurs, tu sais.
Il y a une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est « Est-ce que tu écris avec de la musique ou le silence total? »
Ah, ça me prend de la musique. Ça me prend de la musique en lien avec mes romans. Donc, dans mon ordinateur, j'ai plein de bandes sonores. En fait, c'est beaucoup des bandes sonores que j'écoute de films. Ça, c'est cool. Et c'est ça. Fait que les musiques sont adaptées au style que j'écris. C'est souvent instrumental, donc c'est pas envahissant par des paroles. En fait, celle que j'écoute vraiment avec des paroles, c'est comme celle en ce moment, parce que j'écris un livre sur les Vikings. Alors, j'écoute de la musique de vieux norrois, puis de Vikings, tout ça. Et là, ça fait des drôles de bruits. C'est un langage que je connais pas non plus. Fait que c'est parfait, ça. Je m'accroche pas sur les mots. Mon conjoint, des fois, il dit « Veux-tu me dire ce que tu écoutes, là? » Mais tu sais, j'écoute ça en boucle. Donc.
As-tu la trame sonore du dernier des Mohicans?
Oui.
C'est une des plus belles, hein?
Ben, écoute, je l'ai écrit quand j'ai écrit ma série Les Inconnus de l'île d'Orléans. Les deux tomes, je l'ai écrit entre autres avec cette musique-là. Là, parce que j'ai différentes trames sonores qui roulent en boucle.
Dans tes lecteurs, tu as beaucoup de lectrices. Mm-hmm. Mais c'est quoi la part avec les lecteurs hommes dont j'en fais partie? Moi, je suis un fan de Sonia, puis c'est quand même bizarre, c'est d'être fan de Sonia depuis plusieurs années, puis aujourd'hui, de l'avoir en live, puis qu'elle a même écrit la préface d'un prochain livre.
D'ailleurs, c'est une amie?
Oui, c'est une amie
aussi. C'est bien plus le fun!
C'est bien plus le fun, puis tu sais, tu suis une personne depuis longtemps, puis c'est quoi la part avec les lecteurs hommes, femmes, dans ton cas?
Ben, étonnamment, parce que souvent, moi, je m'affiche comme écrivant de la romance, mais étonnamment, j'ai beaucoup d'hommes qui me lisent. Bon, mettons qu'on met à part Le Chaperon Rouge, parce que ça, c'est un roman catégorie à part, là, mes romans traditionnels. Tu sais, comme les Vikings, ben, je vais avoir beaucoup d'hommes qui vont le lire, ce roman-là. Même celui du Moyen-Âge, donc, le fantastique. Fait que, oui, je te dirais, la grande majorité, peut-être, je ne sais pas, peut-être 80%. C'est difficile à dire parce que les hommes ne viennent pas nécessairement me voir dans les salons du livre ou ouais. M'envoient pas nécessairement des messages. Mais fait que c'est sûr que j'ai probablement une grande majorité que ce sont des femmes, mais je suis toujours surprise parce que j'ai régulièrement des hommes qui vont venir me voir, qui vont me dire j'ai lu tel roman, j'ai aimé, tout ça. Mais c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Ils vont moins venir me voir, là, tu sais. Mais j'en ai. Puis, je me rappelle un moment donné, il y avait même un monsieur qui m'avait dit, deux messieurs qui m'avaient dit, même s'il y a de la romance, bien, c'est correct. Ça en prend dans la vie, là, tu sais, ça prend de l'amour à quelque part dans la vie. Puis, je veux dire, l'humain serait pas rendu là s'il y a quelque part. Il n'y avait pas eu, tu sais. Fait que. Donc, mais c'est pas non plus la romance à l'eau de rose, tu sais. Ça peut être facilement abordable pour. Parce qu'il y a autant des personnages masculins que féminins dans mes romans. Donc, c'est abordable pour les deux sexes, là.
Ouais, puis tes livres sur l'île d'Orléans, qui est d'ailleurs en réimpression.
Ouais.
C'est magnifique comme. J'aime beaucoup l'île d'Orléans. Et ceux qui me connaissent savent que c'est mon petit coin de paradis à moi où j'ai besoin d'aller quelques fois par année sur l'île. Puis c'est un très bel hommage que tu rends à l'île d'Orléans. Puis ils doivent être très fiers sur l'île que tu as écrit ces romans-là.
Ben, pour moi, c'est un coup de cœur, l'île d'Orléans aussi. Fait.
Ah oui. Il y a... Julie Lamarre qui dit, en termes de pourcentage, combien de pourcents est attribué à l'historique pur auquel tu restes très fidèle et à quel pourcent à la fiction ou à la romance que tu en fais?
Eh ben, la romance, elle est fictive, règle générale, parce que mes personnages sont fictifs. Par contre, dans mes romans, tout le contexte est réel. J'essaie le plus possible de ne pas déroger du contexte historique. Si j'ai à le faire, et je donne juste un exemple, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec le tome 2 de Les Inconnus d'Orléans, il y a des trappeurs. Et il y avait un groupe d'hommes, riches hommes de noblesse, qui faisaient partie du Beaver Club. Et le Beaver Club était à Montréal. Mais pour les besoins de mon roman, j'avais besoin qu'il soit à Québec, parce que mon roman se déroulait à l'île d'Orléans, à Québec. Donc, à ce moment-là, je le marque comme s'il se déroulait à Québec, mais quand je fais des choses comme ça, je marque toujours en note de page au début, en note d'auteur, je marque toujours l'information réelle, puis en disant que pour les besoins de la cause, j'ai eu à modifier telle chose. Mais tu sais, j'essaie de le faire le moins possible parce que je veux que ça soit le plus réel possible. Je veux vraiment... Oui, puis je veux que ça soit crédible, mais je veux que les gens voyagent aussi dans le temps, puis qu'il y ait vraiment un vrai voyage dans le temps. Donc, alors oui, tout le contexte, normalement, est historique, mais mes personnages sont fictifs, ce qu'ils vivent est fictif, mais par contre, ils vont vivre des événements qui sont réels.
Leur fais-tu rencontrer des personnages réels qui ont existé de temps en temps dans ton histoire?
Oui, souvent ça arrive, puis à ce moment-là aussi, je le marque dans mes romans, en règle générale, ça va être indiqué... Tel personnage est réel, tel personnage sont réels. J'aime beaucoup comme ça inclure des personnages réels parce que je trouve que ça fait encore plus, tu sais, comme plus de viande autour de l'os, là. Ça fait plus réel dans ce temps-là.
Mais ce qui est fascinant avec tes livres, Sonia, c'est que tu as un côté historienne, puis il y a aussi un côté journaliste en toi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a souvent fait remarquer parce que côté historien, journaliste, d'aller fouiller, puis ça se ressent à chaque fois qu'on lit ton livre, c'est que tu te rapproches vraiment de la réalité, que ce soit le plus réel possible. Il y a une journaliste qui dort en toi. Là.
Mais en fait, ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'on aurait aimé ça m'avoir comme prof d'histoire à l'école.
Oui.
Oui, t'aurais été fascinante.
T'aurais été plus intéressante. Ça, on me laisse souvent sortie. Parce que je la décortique tellement l'information qu'elle devient vraiment abordable. Elle coule de soi. Le contexte historique coule.
Tu serais une bonne vulgarisatrice.
Oui, bien, c'est ça.
Ouais. C'est un beau compliment, ça.
Merci.
Il y a Julie Lamarre a dit, donc Cléopâtre est ta première héroïne non fictive.
Que j'ai un roman consacré entièrement, oui. Ouais.
Est-ce que ça amène plus de difficultés quand tu es non fictif, que tu dois te baser sur des faits réels? Là, est-ce que c'est plus ardu pour toi?
Oui, ben oui. C'est plus difficile parce que là, souvent, quand on écrit, on écoute nos personnages, hein, puis on voit bien où ce qui nous emmène. Ben, quand le personnage a existé puis qu'il y a une ligne du temps précise, ben on ne peut pas trop faire de sparatage un petit peu partout. Il faut suivre la ligne du temps. Et ce qui est difficile aussi, c'est quand on trouve plein d'informations contradictoires ou pas claires, tout ça, là, c'est encore plus difficile. Fait que, oui, ça demande énormément. Je ne dis pas que j'écrirais souvent des livres comme ça, mais c'est sûr que c'est énormément plus d'ouvrage.
C'est restrictif, mais ça doit être au bout de la ligne. Ça doit être hyper satisfaisant d'avoir passé au travers de ces défis-là.
Oui, oui, c'est sûr.
C'est parce que tu dois avoir eu des bouts où tu as dû te dire dans quoi je me suis embarquée.
Eh oui! Quelquefois!
Il y a des questions qui demandent, est-ce qu'il y aura une suite à Cléopâtre?
Je pense pas, mais on peut jamais dire, on peut jamais être certain, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est pas prévu. Parce que mon coup de cœur était tellement pour Cléopâtre et Jules César que j'aurais de la difficulté emmener la même chose, la même couleur, la même profondeur avec Marc-Antoine, qui, lui, est un personnage que je trouvais très superficiel.
Oui, ouais, hein?
J'aurais de la difficulté à ce moment-là à m'investir dans ce personnage-là. Là.
L'histoire en a fait le tour pas mal de Marc-Antoine.
Oui, puis bon, à mes yeux, à moi, c'est pas aussi intéressant que César. Disons.
C'est moins croustillant.
Oui, c'est moins croustillant, c'est moins... j'aime beaucoup la noblesse des hommes, la noblesse d'âme, la noblesse des hommes. Peut-être pour ça aussi que j'aime beaucoup les romans historiques parce qu'il y avait certaines valeurs, tout ça. Puis, Jules César cadrait vraiment avec la vision que j'avais de ces époques-là. Tandis que Marc-Antoine, il cadrait pas trop.
Ah, Marc-Antoine, c'était genre un peu comme les nouveaux influenceurs, là, un peu.
Je ne sais pas trop, mais tu sais, j'avais pas sa philosophie, disons, sa façon d'être.
Il avait une philosophie un peu bizarre, mais tu rends tellement Cléopâtre dans ce roman-là attachante. Ça en est fascinant comment qu'on s'attache à elle dès les premières pages. C'est là après, et puis j'ai lu la première version de Cléopâtre qui va être un collector d'après moi. Puis c'est vraiment cette histoire, c'est digne d'un film parce que tu le racontes, mais très cinématographique dans la façon de décrire les personnages, les lieux. Est-ce que le côté aussi cinéma chez toi, de faire voyager le lecteur dans ton livre, de l'imprégner, parce que des fois on peut même ressentir des parfums, de la façon que tu décris l'atmosphère et tout ça. Toi, c'est important qu'il y ait ces images-là aussi que tu fasses voyager?
Oui, c'est très important pour moi parce que comme moi-même je suis visuelle, donc j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de voir défiler devant mes yeux. J'ai besoin de le sentir. Moi aussi, j'ai des petits pincements au cœur, des choses comme ça. Je suis satisfaite, je suis contente. Fait que quand j'écris, j'ai toujours aussi des images, des lieux où j'essaie d'aller les visiter, ces lieux-là, pour les avoir en tête, tout ça. Donc, pour moi, c'est important et on va retrouver ça dans tous mes romans. Et puis, souvent, je me suis fait dire, Sonia, ça ferait un super de bon film, je le voyais défiler devant mes yeux, tout ça, puis je disais, oui, je sais, j'aimerais ça moi aussi, mais c'est pas si évident que ça. Mais oui, c'est comme ça, quand j'écris, j'aime faire vraiment voyager, faire sentir au lecteur toutes les émotions qui voit défiler devant ses yeux, les scènes, pour moi, c'est super important. En fait, je pourrais pas écrire si je peux pas écrire comme ça.
Il y a Julie Lamar qui demande, as-tu toujours écrit? Écris-tu à temps plein? Si oui, as-tu toujours écrit à temps plein?
Ben, j'écris à temps plein depuis à peu près 5 ans. Avant ça, ben, j'avais mes enfants, mes 3 enfants à la maison. Fait que c'est depuis qu'ils volent de leurs propres ailes que je peux écrire à temps plein. Ce que j'apprécie beaucoup de pouvoir maintenant me plonger vraiment dans mes histoires. J'ai écrit, ça fait depuis l'adolescence que je m'amuse à écrire. Déjà adolescente, j'écrivais des petites nouvelles. Je changeais des fins de films. Du genre, j'étais une très grande amatrice des Star Wars à l'époque. Je suis de cette génération-là, de Skywalker. J'aimais beaucoup la science-fiction, même si pour une fille, c'était assez inhabituel à cette époque-là. Puis, je m'amusais à changer les fins de Star Wars. Et puis là, je m'intégrais dans l'histoire. Puis là, j'interagissais avec Luke Skywalker parce que je l'aimais bien, puis tout ça. Donc, je m'amusais comme ça à changer différentes fins de films, de séries.
À quelque part, tu disais « Je suis Sonia l'autrice. Pas je suis ton père.
» Non, c'est ça.
As-tu fait du mal à Chewbacca?
Non, ben non, oui. Ben non. Gros toutou.
As-tu écouté les nouvelles séries, les nouvelles...
Ah, j'ai pas trippé sur les 3 derniers. Il y avait un petit cachet avec les premiers. Puis ouais, c'est comme ça que ça soit mais les Battlestar Galactica de l'époque, les Cosmos.
Andromeda.
J'aimais tout ce qui était comme ça de science-fiction. Là, moi, les nouvelles versions, là, je trippe pas. Là, j'aimais l'ancienne version.
Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Sonia Alain. On est jusqu'à 21h en sa compagnie. Puis dans les questions, Maryse Fortin demande « Quand tu nous fais visiter des lieux, c'est tellement agréable. Comment tu fais pour ne pas être
nostalgique quand tu y vas? »
Pour ne pas être nostalgique quand tu y vas et quand tu reviens.
En fait, je sais qu'une année, je vais aller ailleurs et je vais découvrir autre chose. Fait que ça m'aide beaucoup. Mais je me rappelle le fait de me souvenir des endroits où j'ai été, de voir les histoires que j'y ai associées, tout ça. Ben, je ne peux pas être nostalgique. En fait, ce que je vais peut-être avoir le goût d'y retourner à un moment donné, et puis c'est ça qui est le fun. Mais non, pour moi, il n'y a pas de nostalgie. C'est juste le pur bonheur d'y avoir été et puis de pouvoir le partager à travers mes récits parce que j'adore voyager, puis presque tous mes voyages, on va les retrouver, des anecdotes, des choses comme ça à travers tous mes romans.
T'es en top 3 dans les pays que tu as visités pour tes romans? En top 3?
Top 3, l'Écosse.
Mm-hmm.
Coup de cœur. Rome, que j'ai aussi énormément aimé. Puis l'autre, je dirais probablement l'Irlande.
Oh, chanceux, c'est un pays que j'aimerais tellement visiter. As-tu été voir la chaussée des géants?
Ben, j'étais allée voir les pas, là, toutes les...
Ouais?
Oui, ah, écoute, ça, c'est...
Mon Dieu. Ton premier roman est sorti, tu avais quel âge?
C'est il y a 13 ans. Donc, ouais, c'est ça. Le premier est sorti en 2009. Ça fait 14 ans.
Son titre?
C'était, à l'époque, ça s'appelait « Le masque du Gerfaut ».
OK.
Et puis, ça s'appelle, c'est le tome 1 de « La Dame de Nox », dont le sous-titre est « Le masque », en référence au masque du Gerfaut.
Okay. Puis, déjà, c'était historique?
Oui.
Lui, il manque à ma collection.
Ah! C'était à l'époque, c'était au Moyen-Âge. Donc,
okay, tu vois-tu quand même en 14 ans? Tu as sorti 21 livres en 14 ans.
Ouais.
Tu réalises-tu l'exploit que tu as accompli? C'est grandiose. À Sonia, c'est extraordinaire. C'est toute une fierté. Tu en as mis des bébés au monde, là.
C'est ça, oui.
Oui, oui.
Ouais,
tu as voyagé beaucoup de monde avec ça, là. 21 ouais. livres en 14 ans. C'est quelque chose.
Ah, c'est quelque chose.
Tu comprends pourquoi j'essaye de la battre?
Mais tu sais, à un moment donné, je vais commencer à ralentir peut-être un petit peu, là, parce que à un moment donné, l'âge avance, mais bon, pour l'instant, tant que je commence...
Mais la passion est là, c'est ça qui compte?
Oui, ben, c'est ça, tant que la passion
mais c'est
là.
Quoi, c'est deux romans par année, à peu près?
C'est deux romans par année, normalement, oui.
Wow!
Mais il y a eu des rééditions à travers, tu sais, comme mes autres séries, fait que là, ça rentrait à travers le reste.
C'est pas grave!
Ouais.
C'est une nouvelle version, c'est une nouvelle édition.
Ah oui.
Tu vois-tu?
Ça alors, si je comptais toutes les rééditions, là, on aurait pas mal plus que j'ai la chance, je me considère vraiment très chanceuse de voir mes romans réédités comme ça. Puis c'est ça, le destin de Cléopâtre, ça aussi, c'est encore une super chance parce que c'est pour moi, les romans ne devraient pas mourir.
Non.
Dans le sens d'accord. Que c'est juste dommage que maintenant, c'est plus sur le marché puis tout ça. Puis quand il y a ces rééditions-là, comme là de Cléopâtre, entre autres, ben pour moi, c'est tellement gratifiant parce que c'est comme, yes, ils vont voir le jour, ils vont, tu sais, là, il y a plein d'autres gens qui vont pouvoir les découvrir, tout ça, parce que pour moi, c'était vraiment une tristesse à chaque fois quand que ces livres-là, mes séries ont été laissées de côté. Mais j'ai eu la chance de pouvoir toutes les rééditer. Fait que ça, c'est pour moi, c'est wow, là, tu sais.
Une rencontre marquante que tu as faite au cours de tes recherches, une personne qui t'a aidé, que ce soit un auteur, un spécialiste dans tel thème, est-ce que t'en aurais à dire des rencontres marquantes?
Ben, en fait, c'est plus une anecdote coquette.
Okay.
En fait, c'est pour justement ma série La Dame de Nox, qui était anciennement le masque du Gerfaut, puis l'amour au temps de la guerre de 100 ans. À l'époque, j'avais fait, ben tu sais, je commençais en plus, tu sais. Fait que là, j'avais fait des recherches parce que j'avais un personnage qui était réel, justement, dans mon roman, qui était le comte de, Long, de le vicomte de Langarzo, quelque chose comme ça. Puis, quand je faisais mes recherches, cet homme-là, ce que je découvrais, c'est qu'à un moment donné, il y avait un nom qui lui était associé. Des fois, ce nom-là, on le disait comme étant sa femme. Il y a d'autres moments comme étant sa mère. Okay. Sinon, ça ne marche pas. C'est une ou l'autre. Ça ne peut pas être la femme et la mère en même temps, tu sais. Alors là, j'avais fait des recherches à ce moment-là pour directement, parce que le château de cet homme-là existe encore, il est en ruine, il existe encore en Bretagne. Et pour me rendre compte que c'était les descendants de ce vicomte-là qui avaient encore le château et qui travaillent pour le restaurer et tout ça. Et c'est encore des gens qui ont encore leur titre de noblesse, tout ça. Puis on m'avait dit, bien, si vous passez dans le coin, viendrez prendre le thé, tu sais. Puis j'ai dit, oui, j'aimerais bien ça. Le problème est un petit peu loin pour moi. Mais, tu sais, j'avais eu un échange super agréable et intéressant avec ces gens-là. Puis c'était de voir que là, je parlais de leurs descendants.
Hey, c'est quelque chose.
C'est intéressant, là, que mon roman se déroule, donc en 1350-quelque, là.
Wow!
Dit, oh, wow, exactement, c'est ça, j'ai trouvé ça, wow, génial, tu sais, puis ils m'ont donné plein d'autres informations aussi, puis tout ça, fait que ça, j'ai juste adoré. Le
cadeau de la vie, ça?
Ouais, c'est vraiment ça, puis un moment donné, pour mon roman La Mante masquée, ça se déroule, c'est un roman spicy contemporain qui se déroule dans le monde de la ferme. Et j'ai eu la chance de pouvoir parler avec un journaliste qui suivait beaucoup ça, la F1, qui chroniquait tout ça, et avec un pilote, Pierre Godin, si je me rappelle bien, qui, lui, n'était pas de F1, mais était un pilote d'une autre catégorie, là, en dessous de la F1.
Et le chroniqueur Godin, c'est ça?
Non, ben c'est le chroniqueur, c'était Charles-André Marchand, et moi, j'ai beaucoup de misère avec mes prénoms et mes noms, là, j'ai une mémoire vraiment d'oiseau là-dessus. Mais et ces deux hommes-là m'ont décrit, comme le pilote me décrit vraiment comment ils se préparaient mentalement, comment ça se déroule quand tu conduis, tout ça. Le journaliste me parlait de tout ce qu'il y avait à côté, puis la façon de le déroulement, les sponsors, tout ça. Fait que c'était comme, waouh, moi, ces hommes-là me parlaient, là, mais puis c'est comme ça, mon personnage s'enrichissait tout seul, là, il prenait
forme. Ben oui.
Fait que ce genre de rencontre-là, je trouve ça juste génial parce que ça rend d'autant plus encore crédible, réaliste, mes personnages puis l'histoire.
Est-ce que dans les salons du livre, tu as aussi, c'est des questions que je vois passer, des faits cocasses, des rencontres cocasses, une collectionneuse, un collectionneur de tes livres. Est-ce que tu as des faits comme ça?
Les femmes finies!
Écoute, des rencontres farfelues, ça, on en a. En fait, tous les salons, mon conjoint dit toujours, bon, qu'est-ce qui est arrivé dans ce salon-là? Parce que...
Je suis pas le seul.
Écoute, il en arrive de tous les styles. Il y a même des fois où on remonte de quelques années où il fallait que je fasse des signes, tu sais, dans le dos, là, à mes collègues pour dire, venez sortir d'une situation où je suis avec là, un hurluberlu complètement plaillé, puis j'étais pris là sur ma chaise, tu sais. Fait que il y a des situations comme ça, des fois, là, vraiment, on dirait que quand on est assis sur nos chaises d'auteur, on a une aura de quelque chose qui attire un petit peu toutes sortes de rencontres. Mais parallèlement, j'ai des rencontres tellement géniales. Moi, c'est ce que j'adore. Pour moi, c'est du bonbon de rencontrer les lectrices, les lecteurs qui viennent me parler, qui me disent « Ah là, tu me fais pleurer dans le roman. » Là, je fais « Yes! » Merci, tu sais. Mais, tu sais, des témoignages, des lectrices qui vont venir me voir puis qui me disent « Sonia, tel personnage dans ton roman m'a aidé à traverser des épreuves. » Ça, je trouve ça...
C'est gratifiant, hein?
C'est gratifiant, mais ça me prend au cœur aussi, tu sais, c'est très émouvant aussi, tu sais. Donc, ces rencontres-là, je veux dire,
ça n'a pas de prix.
Non, ça n'a pas de prix. C'est vraiment. Souvent, je dis, moi, c'est ça ma paye.
Oui, c'est des pourboires pour le cœur. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça.
Oui, exact. Fait que ça.
Ah, mais dans les salons, il y a toujours des rencontres farfelues. Même au salon de Trois-Rivières, il y a une rencontre farfelue. Puis, en gros, il y a un monsieur qui s'est amené vers moi, 75 ans. Il m'a dit, j'étais debout à ma table où tu m'as vu. Puis il me dit, tu vas rester longtemps seul à ta table. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'es pas du tout sexy. Il est parti.
Oh non, c'est pas ça. Mais c'est ça, quand je dis des fois, on a des drôles de choses. Écoute, moi, le pire, là, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, puis je croise les doigts, mais beaucoup...
Ah, moi, je les collectionne à chaque semaine.
Mais peut-être que je pense que je suis un petit peu plus vieille, c'est moins challengeant pour certains messieurs, mais au début, j'avais beaucoup, et c'était vraiment des messieurs, tu sais, des hommes 60, 70 ans, qui venait à ma table, très sérieux, qui venait à ma table et qui, là, cherchait à me coincer dans mon information historique. Voir si j'avais bien fait mes devoirs. Puis ça, c'est souvent, ce sont les hommes qui me font ça, qui viennent me questionner, tu sais, comme j'en ai aussi sur l'île d'Orléans, ben, telle place, puis ça. Puis je me dis, ah, j'ai dit ça en ce temps-là, parce que je me dis, c'est quoi la joke de vouloir venir me coincer pour me prendre sur le fait, tu sais, que, ah, il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait ou tu ne connais pas. Ou... Ça, je trouve ça plat.
C'est le côté macho, hein?
Ben, je sais pas, mais ça, je trouve ça vraiment dommage parce que je me dis, puis ça, quand je fais mes conférences, je le dis tout le temps, je ne suis pas historienne. Je ne suis pas historienne, mais je suis une passionnée de l'histoire. Fait que, j'ai pas étudié en histoire, mais je fais énormément de recherches. Ça se peut à un moment donné que j'en échappe, tu sais. Comme, entre autres, Cléopâtre, que j'étais-tu contente de retravailler la réédition, parce qu'il y avait une place et un affaire, une information qui m'avait, un anachronisme qui m'avait complètement échappé, mais c'était des informations contradictoires que j'avais trouvées dans mes recherches, puis j'étais comme, oh boy! En lisant, je fais... Quand on m'est revenu, je fais « Oh, t'as une minute, là! » Ben non, non, ça n'a pas d'allure. Fait que tu sais, l'erreur, elle est humaine. Je ne suis pas historienne. Fait que je trouve ça plate. Ça, je trouve ça vraiment plate quand on arrive comme ça. Puis c'est ça, quand c'est... Je ne me rappelle pas que des femmes m'aient fait ça.
De toute façon, de le dire des fois aussi, pour être moins agressant, tu sais, moins « je vais te piquer pour t'avoir » ou plutôt « Hey, t'as pas pensé à ça » puis « je te le dis de même, tu regarderas ça pour la prochaine édition ».
Ben oui,
ça serait bien mieux de cette manière-là.
Ouais.
Ah, tu sais, il y a déjà une lectrice qui m'a dit à Rimouski que la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais existé. Dans chaque salon, je tombe chaque fois sur un hurluberlu.
Ah, son micro, il est fermé.
Ouais.
Oui, je le ferme de temps en temps à cause qu'il y a un petit peu de bruit à côté de moi, mes écouteurs ne marchent pas. Fait que dans ce temps-là, je le réouvre.
Mais c'est la beauté des salons de voir justement. Puis dans les personnes qui nous écrivent, il y a ton amie que j'ai connue à Rimouski, Nathalie.
Ah, Nathalie, allô!
Elle dit coucou mes amis, allô Sonia, allô Jean-Luc. Puis elle rajoute, mon amie est une championne.
Ah, c'est chouette, Nathalie. Mais écoute, Nathalie est tellement fine. Au salon du livre de Rimouski, tu sais, mon conjoint m'accompagne pas mal tout dans les salons, mais Rimouski, là, puis le BTP, ça, il trouve ça pas mal loin. Fait que, puis Nathalie, elle s'est offerte pour m'accompagner. Fait que Nathalie, on part, on fait un road trip de filles. À chaque fois qu'on se rend à Rimouski, elle a conduit la route non-stop de A à Z. Elle est super fine, puis on passe un beau week-end, puis écoute, on a vraiment du fun, c'est super.
Une chose à se dire.
Oui.
Ouais, que j'ai connu à Rimouski, puis c'est vraiment une femme à cœur sur deux pattes.
Oh.
Elle est attachante. Vraiment, je salue Nathalie, puis je l'ai connue à Rimouski grâce à toi. Oui. Puis c'est vraiment un cœur sur deux pattes. Puis elle dit, dans les souvenirs, il y a un ado qui a fait autographier Annabelle et Max.
Un ado qui a fait autographier Annabelle et Max. Ouais, mais j'en ai de tous les styles. Des fois, j'en ai qui sont dédicacés sur le bras.
C'est comme... Ah, toi aussi, t'as des tatous?
Oh, ça, j'aime pas ça. Dédicacés, c'est corps, des parties de corps des personnes. Là,
Jean-Luc, la masseuse qui l'a fait signer son bras, elle l'a fait tatouer après elle.
Oh, t'es sérieux?
Oui. Moi, j'ai 5 tatous. Moi, j'ai 5 tatous.
OK. Avec son nom, là.
Ah là là!
C'est intense.
On a de toutes les sortes.
Non, mais c'est un beau... la première fois, j'ai été surpris. Mais après, c'est comme... après le deuxième, troisième, c'est une marque de reconnaissance. Il y a un journaliste qui a écrit à un moment donné, il dit « On voit ça pour les rockstars, mais jamais pour un écrivain. » Puis c'est vrai.
Ouais.
Mais, c'est un acte d'amour, presque. Mais c'est,
oui. Grosse admiration.
C'est une grosse admiration. C'est très touchant de voir ça.
Oui. Ben, c'est juste que, tu sais, en tant qu'auteur, en tout cas, moi, je ne suis pas habituée. Tu sais, je ne me vois pas comme une rockstar puis tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, quand j'ai des témoignages de gens où des fois, les gens sont tellement fins. Il y en a qui m'apportent des surprises, des
oui.
qui ont bricolé tout ça. Puis des choses, là, tu sais, des fois, une carte, ça peut être une carte postale en lien avec l'impressophile, un signet d'un loup pour mon gardien des portes. Tu sais, des choses. Puis, mon Dieu, ça me touche. Tu vois, c'est quand même gentil. Tu sais, c'est comme les gens ont pris la peine de.
Oui.
Tu sais, une attention pour toi, ou quand les gens viennent te voir, puis, tu sais, qu'ils viennent te voir parce qu'ils ont lu des livres, puis que là, ils viennent t'en parler, tout ça. Tu sais, c'est pas juste de vendre des livres dans les salons du livre.
C'est plus que ça.
Ces gens-là qui viennent te voir, te jaser, tout ça. Mon Dieu, c'est tellement formidable.
Là. Puis, je pense que vous deux, vous allez être. D'accord avec moi, les gens ont un budget, ce qu'on voit souvent depuis quelque temps dans les salons, un budget limité pour acheter des livres, mais ils choisissent d'acheter ton livre.
Oui,
oui. Ça, c'est incroyable.
Privilège.
Ouais.
Ouais. Oh, oui, moi, à chaque fois, je suis comme « wow, c'est mon roman qui prennent la peine de dépenser pour acheter, tu sais ». Fait que c'est comme... Non, c'est ça, parce que le fait est que les prix des livres augmentent énormément. Les gens n'ont pas nécessairement les moyens. Fait que, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis surtout, dans les salons du livre, il y a tellement de choix. Fait que...
Il n'y en a plus de livres à 20-25 $ là. Maintenant, c'est 30 $ et plus.
Ouais, c'est fait ça.
Quand les gens, avant, avec 30 $, il y avait 2 livres. C'est plus ça, là.
Non.
C'est un livre.
Fait que c'est un privilège pour moi quand les gens repartent avec mon roman. Là, c'est un privilège.
Il y a une question de Julie Lamar a dit si tu aurais à être un de tes personnages préférés, lequel ce serait?
Eh mon Dieu, ça me l'a souvent posé, puis je suis jamais capable d'y répondre. Je pense que je change de personnage à chaque fois qu'on me la pose. Écoutez, j'aime bien.
Tu vas être Léopâtre!
Moi, ça a sa fin de destin, tu sais.
Ben moi, je te dirais l'île d'Orléans.
Ouais. Mais écoute, il passe à travers toute une panoplie d'épreuves. En fait, j'ai tendance à faire souffrir beaucoup mes personnages. Puis j'ai un ami, un auteur que j'aime beaucoup, Alain Lafont.
Ouais.
Dit un jour. Plus tu fais souffrir tes personnages, plus les gens vont s'attacher à tes personnages puis vont les aimer.
C'est vrai.
C'est paradoxal, mais c'est ça. Mais moi, je suis comme ça. Souvent, on me dit que t'as sonné, Moses, que t'es intense dans tes affaires. Parce que oui, je vais pas en surface. Mes personnages, quand ils souffrent, ils souffrent. Quand ils sont heureux, tu sais, puis ça va bien, tout ça, mais... Et ils passent à travers des épreuves. Fait que je ne suis pas sûre que j'aimerais ça être à leur place.
On demande aussi ton personnage masculin préféré.
Ah, ça, j'en ai... En fait, j'en ai deux. J'ai Geoffrey de Nox dans ma dame de Nox. Ça, c'est mon coup de cœur parce que cet homme-là, quand je l'ai inventé, quand je l'ai construit... c'est un peu un hommage à Geoffrey de Peyrac dans les
Anneliques
d'Anne Gollon. Donc, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée.
Oui!
Et donc, je vais rendre un peu hommage. Alors, il ne s'appelait pas Geoffrey de Peyrac, mais il s'appelait Geoffrey de Nox. Fait que ce personnage-là, j'ai un coup de cœur pour lui. Et Marcus, dans le tome 1 de Mes gardiens des portes, mon métamorphe. Lui aussi, j'ai un petit croche pour lui.
Ah, mais il est marquant, Marcus.
Oui. Il a marqué beaucoup de femmes.
Il a marqué beaucoup de femmes, puis des lecteurs aussi, quand ils l'ont lu.
Il est quelque chose. À découvrir.
Oui. Il y a des questions, puis on va y répondre. Tes prochaines sorties de rencontres avec les lectrices et les lecteurs, ça va être le Salon du livre de Québec. Ouais. Donc, du 10 au 14 avril qui va avoir lieu.
Oui, moi, c'est le vendredi samedi, non-stop. Oui. Je vais être au caisse de Béliveau ou au caisse de l'heure. Vous ne pouvez pas rater parce que je suis là vendredi toute la journée, samedi toute la journée, à un ou deux kiosques. Je vais être au Salon du livre, Salon littérature de Drummondville le 21 avril. Donc, ça va être la première fois que je vais pouvoir les citer. Donc, j'ai bien hâte de voir ça.
Tu vas l'aimer, c'est le fun.
Oui, ben je l'avais raté l'année passée, mais j'ai vraiment hâte cette année. Puis, je fais deux conférences aussi, une à Rivière-Rouge et une à Brossard. Brossard, c'est le 20 avril. Rivière-Rouge, c'est le...
Rivière-Rouge, c'est le 20 avril et Brossard, c'est le 24 avril.
En grosse ligne, tes conférences, tu parles de quoi? Juste vite, vite, là.
J'en ai une qui c'est la vie d'auteur, donc je parle vraiment de tout ce qui est arrivé, de la réalité du milieu, du processus, tout ça. Les autres, c'est vraiment des conférences qui sont en lien avec des thématiques qu'on a dans mes romans. C'est comme j'en ai une sur Billy King, une sur l'Empress of Ireland. Donc, c'est tant qu'avoir fait des recherches, ben, je les partage dans ces conférences. Okay.
Puis, il y a aussi le Festival de la romance. Où tu vas...
Festival de la romance le 24 août à Donnacona.
Puis moi, je serai là pas cette année, mais l'autre année, vu que je sors une romance, donc je vais être là pour...
Oui, en septembre, sors une romance?
Pour Lolita, tu as préparé une petite surprise à notre cher Sonia.
Au lieu de te faire des petits mots de Loli que je compose, une petite pensée, moi, c'est plutôt une réflexion que je trouve qui te ressemble, puis que ça pourrait, tu pourrais l'utiliser. La première, j'écris... Pour une auteure, sa vraie, sa véritable famille est celle qu'elle met dans ses livres. Ça, c'est ma première. Je trouvais que ça te ressemblait.
Oui.
Après ça, l'autre, j'ai écrit « Écrire est une promesse que l'auteur vous livre comme une caresse. »
Ah, c'est cute.
Et la dernière, d'habitude, j'en fais rien qu'une, mais ouais, c'était mon amie. Ça m'a inspirée, ce que je te dis. Pour l'auteur, écrire est une façon de prendre soin de son âme. Une fois le livre terminé, c'est l'histoire qui libère l'âme de sa plume.
Ah! Oh, c'est voilà. Beau. Wow!
Tu peux les utiliser, ma chère Sonia, puis moi, je suis très, je vais te le dire ouvertement, je suis très admiratif de toi, puis je me compte chanceux et privilégié de t'avoir comme ami. Parce que c'est vraiment du bonbon à chaque fois qu'on se voit. C'est vraiment... puis notre rencontre à Rimouski a découlé ton arrivée chez Béliveau. Donc, chaque fois, je suis très ému de te voir, de pouvoir te parler, parce que je sais que je te suis depuis longtemps et je me dis, ben maintenant, je l'ai comme ami. C'est incroyable. Puis, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration et que je t'adore, ma chère Sonia. Je
voulais te dire. C'est un privilège pour moi aussi.
T'es pas juste une grande écrivaine. À nos yeux, t'es une grande dame.
Ah, merci. C'est gentil. Je te dis au mot. Paraît pas que je suis une personne timide. Mais merci. Non, écoutez, c'est vraiment un privilège pour moi aussi, vous deux, parce que vous êtes deux personnes vraiment de cœur que je trouve. Très attachante, très aussi, très sensible. Et ça, c'est important pour moi aussi.
Hier, Julie Lamar qui écrit, a dit, « Enfin, je vais pouvoir te voir et elle ajoute, merci pour cette belle soirée. Tu es une source d'inspiration. Wow, j'admire ton dévouement dans tes recherches. »
Ah, merci.
Puis Marie Sortin a dit, « C'est une grande dame écrivaine. » Et oui, c'est une grande écrivaine qu'on a au Québec. Puis il faut le souligner. Puis ses romans sont toujours classés dans les premières ventes, dans les top des ventes, même chez Québec Loisirs, entre autres. Sont toujours là dans les premiers classements. puis il y a vraiment un attachement d'électrice envers Sonia Alain. Puis on est content de t'avoir chez Bilibo.
C'est une belle recherche pour une belle richesse pour le lectorat québécois.
Oui. Oh, mon Dieu, merci.
Tu nous enverras le 20 pièces après. Par... Merci beaucoup, Sonia. Puis le prochain rendez-vous, ce n'est pas la semaine prochaine. Ça va être le lundi 8 avril. Donc, le lundi 8 avril, avant le départ pour le Salon du Livre de Québec.
C'est pas ça, votre coup, là.
Oh, oui, c'est ça. On cherche le vent comme ça.
Oui, ça va être Annabelle et Lolita qui vont être à la présentation de Bilibo Rencontre, parce que moi, je serai dans la troisième case comme l'invité. Donc, c'est moi qui vais passer au tordeur avec ces deux madames. Donc, ils vont poser leurs questions. Donc, attendez-vous à toutes sortes de questions. Elles vont
Si je peux me permettre, écoutez, pour les personnes qui sont présentes, c'est deux auteurs à découvrir. Donc, Lolita et Jean-Luc, vraiment, allez découvrir leurs plumes si vous ne les connaissez pas. Ça vaut la peine.
Merci à toi, c'est gentil.
Merci, Sonia. On se retrouve le 8 avril à 20h pour un autre Bilibo Rencontre. Puis n'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous lire. Puis allez à la rencontre des auteurs et autrices directement dans les salons du livre. On est là pour discuter avec vous. Puis à chaque fois, c'est un bonheur. Puis il y a Marie Fortin qui écrit « Tu vas passer au CAFCH ». Oui, Marie, c'est le jeu pour toi.
N'hésitez pas à venir nous voir dans les salons du livre, même si c'est juste pour jaser, parce que ça fait plaisir.
On est juste pour dire bonjour.
Bonjour, un petit coucou. Écoutez, ça nous fait plaisir.
Oui, Mireille Bernier a dit qu'elle va être au Salon du livre de Québec. Puis je pensais que Sonia, allait dire « N'hésitez pas à le passer au CAFCH ». On a...
Mais non.
Merci beaucoup, Lolita, d'avoir été là pour ce Bilibo Rencontre.
Ça fait un plaisir, particulièrement avec ma belle Sonia. Puis nous autres, on se voit au Salon du livre de Québec.
Mais oui, en tout cas, merci pour la belle invitation.
Gros plaisir, merci d'avoir accepté.
Merci à tout le monde. On se dit à dans 15 jours.
Bonne fin de soirée, tout le monde.
Bonne fin de soirée. À bientôt, tout le monde. Bye.